Bonsoir, bienvenue dans Forum. L'impensable s'est produit en Valais. Le village de Blatten a été en grande partie détruit suite à l'effondrement du glacier du Birch. L'émotion est forte dans le canton. On entendra la voix des habitants, du Conseil d'État, de la classe politique locale et d'un expert des glaciers.
À Genève, la justice confirme une grave faute. Fraude électorale à Vernier, cinquième ville de Suisse romande. Un nombre important de bulletins de vote aurait été rempli par seulement quelques personnes. De quoi remettre en question l'élection du Parlement communal qui s'est tenue en mars.
Des procédures d'asile express pour les ressortissants du Maghreb. Le Conseil fédéral misait sur ce mécanisme controversé pour réduire la pression sur les centres fédéraux. Mais la mesure n'a pas eu les effets escomptés. Et on vous expliquera pourquoi.
La Suisse doit agir immédiatement pour protéger le droit international à Gaza. L'appel d'une centaine de personnalités helvétiques, dont deux anciennes conseillères fédérales. La pression sur le gouvernement augmente. Nous verrons quelle est sa marge de manœuvre.
Dans ce forum également, les aventures des Suissesses à Roland-Garros et une enquête sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans, cette génération qui est la première à avoir grandi un smartphone à la main.
Nous sommes en direct jusqu'à 19h sur RTS 2, RTS Première et l'application Play RTS. Bienvenue.
Forum, Renaud Malik, Valentin Emery.
Le scénario catastrophe s'est donc produit à Blatten.
Une grande partie du glacier a cédé. Les gravats recouvrent une importante partie du village évacué depuis une dizaine de jours. On va y consacrer une large page dans cette émission. On se rend d'abord dans la vallée du Lonchental, en contrebas de Blatten. Diana Lisramsauer, sur place, la situation est chaotique.
Oui, depuis la barrière sur la route qui mène à Blatten, on ne voit qu'un amas de terre qui recouvre la plaine. Le glacier s'est rompu vers 15h30 dans un énorme fracas qui a provoqué un tremblement de terre de 3,1 sur l'échelle de Richter. Puis un nuage de poussière s'est répandu un peu partout dans la vallée. Désormais, il y a cette odeur de terre mouillée qui imprègne l'air. Sur les images prises par drone, ce que l'on voit, c'est un champ de désolation, des maisons recouvertes de gravats. Alors, ça faisait 10 jours que la montagne bougeait, que des pans entiers tombaient sur ce glacier. Il menaçait de rompre. Cette fois, c'est donc arrivé. Et d'une puissance inattendue, les gravats sont même remontés jusqu'au versant opposé, débordant ensuite sur les côtés de la vallée. Les routes ont été bloquées un peu partout à l'approche de cette barrière. Des pompiers s'affairent, présent également la protection civile et des hélicoptères qui sillonnent le ciel. Épreuve peut-être de l'ampleur de la catastrophe, deux conseillers fédéraux sont en chemin ou sont déjà présents, Albert Ruschi et Martin Pitzer. Alors pour l'instant, c'est surtout l'émotion qui règne ici. Nous avons très très peu d'informations à ce stade. Alors aucun blessé, aucun décès n'a déploré, mais ça reste encore à confirmer. Et puis sur le plan humain, en cette fin de journée, on voit de plus en plus de voitures rejoindre ce fond de vallée. Des gens qui travaillent en plaine, mais qui habitent ici, où c'était réfugié chez des amis ou des connaissances à Villers, Kippel, Verden, dans tous les villages alentours du Lonchental. Alors ce qu'on sait désormais, c'est que la plupart de ces habitants, de Blatten en tout cas, ne retrouveront jamais leur maison.
Merci beaucoup Diana Lisramsauer. N'hésitez pas à intervenir si vous avez d'autres informations d'ici là.
La détonation de l'éboulement a été ressentie dans les communes proches, notamment dans le village voisin de Villers, à environ 4 km de Blatten. Écoutez le témoignage de Joël Coutinho, employé de l'hôtel Sporting.
J'étais en train de travailler au restaurant et d'un coup, il y a eu un grand bruit. J'ai vu les lumières s'allumer, s'éteindre brièvement, puis il y a eu une grosse explosion. J'ai vu un grand nuage de fumée, donc très probablement que tout est tombé d'un coup, comme je viens de le voir dans des vidéos. Je peux m'imaginer que les maisons ont été touchées. Tout cela s'est passé en 5 minutes.
Un témoignage recueilli par nos collègues de SRF. Avec nous, en ligne tout de suite, il y a le conseiller d'État valaisan en charge de la sécurité, Stéphane Ganzer. Bonsoir.
Bonsoir.
Notre envoyé spécial évoquait un champ de désolation. Vous êtes actuellement sur place à Blatten. Que voyez-vous ?
Effectivement, je viens d'y arriver avec mes collègues, certains de mes collègues du conseil d'État, monsieur Franz Ruppen et madame Francis Cabinet. On vient d'arriver à l'instant. On a un rapport qui nous attend dans quelques secondes. Ce que je vois, c'est il pleut à verre. C'est effectivement les premières photos qui nous sont montrées témoignent d'un événement qui est énorme, qui est massif. Et je peux vous dire à l'heure actuelle, alors au niveau des victimes, je peux rien vous dire pour l'instant puisqu'on est encore en train, on n'a pas encore toutes les informations. Par contre, je peux vous dire que le village de Blatten est recouvert quasiment à 90%. Même l'église a disparu, donc l'éboulement est vraiment massif et le village est quasiment entièrement recouvert.
Avez-vous déjà pu parler au président de commune, aux habitants?
J'y arrive à l'instant, j'en ai parlé avec certains, j'ai un rapport dans quelques secondes où je vais pouvoir avoir une idée bien plus précise, mais pour l'instant, non, pas avec l'ensemble des intervenants.
Vous êtes conseiller d'État depuis seulement quelques semaines, Stéphane Ganzer. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez découvert la désolation à Blatten?
Alors, vous savez, la situation est quand même connue depuis une semaine. On s'y était préparé, on avait pris des bonnes mesures. Je crois qu'au niveau du timing, eh bien, c'était assez bien pondéré. Encore ce matin, nous avons déclaré la situation particulière, ce qui nous permettait de mobiliser davantage de moyens, parce qu'on savait depuis hier que la situation s'accélérait, tendait à se péjorer. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a beau être préparé, on a beau anticiper les choses, eh bien, lorsque l'événement arrive, c'est la nature qui reste dominante. Là, l'événement est massif. À nous maintenant d'y apporter des réponses massives et d'avoir aussi, évidemment, tout ce qui va falloir déployer pour aussi venir en aide aux victimes, aux personnes qui ont perdu leur logement. Donc, il y a tout un aspect aussi social, émotionnel qu'il va falloir gérer ici.
Malgré les mesures de prévention prises au cours des derniers jours, Stéphane Ganzer, comment expliquer qu'il y ait une inconnue quant au nombre de possibles blessés?
Alors ça, dans toute catastrophe, il y a une inconnue. Hein. C'est toujours, il y a toujours un facteur qu'on ne maîtrise pas entièrement. Le risque zéro, il n'existe nulle part. Je n'ai pas encore de message particulier à vous dire par rapport à ça, mais au vu de la taille de l'événement, au vu de l'ampleur du périmètre qui est touché, on peut s'attendre à des victimes, on n'en sait rien pour l'instant. J'en saurai plus tard dans la soirée, vous serez sans doute informé. Pour l'instant, mais oui, un événement massif tel que celui-ci en montagne, tout est possible. On savait qu'il y avait des scénarios catastrophes, qu'il y avait des scénarios, et je crois que c'est le pire des scénarios qui s'est déployé avec l'effondrement du glacier suivi par les millions de mètres cubes qui étaient derrière. Mais maintenant, à nous de faire face et à nous de mobiliser les moyens le plus rapidement possible pour gérer cette crise au mieux.
Stéphane Ganzer, restez avec nous, on va entendre un autre témoignage, celui d'un étudiant au volant au moment de l'éboulement. Il passait à Villers, à quelques kilomètres de Blatten, on l'écoute.
Je venais de prendre la voiture et d'un coup j'ai entendu une forte détonation. J'étais en fait trop loin pour voir exactement ce qu'il se passait, mais il y avait beaucoup de fumée. Et c'est la seule chose que j'ai pu voir. C'est évidemment très tragique pour tous les gens ici. Il y aura bien sûr beaucoup de travail qui devra être fait maintenant. Beaucoup d'efforts sur le tas de gravats du glacier pour aider. Notamment enlever les pierres et l'eau.
Voilà un témoignage recueilli lui aussi par nos collègues de SRF.
Et Christophe Lombiel nous a rejoint, maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne, géomorphologue et spécialiste des glaciers. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Expliquez-nous, que s'est-il passé concrètement à Blatten cet après-midi?
Ben, ce qui s'est passé, c'est un peu l'impensable, c'est vraiment le scénario catastrophe. On savait que on avait échappé à l'effondrement total du pilier au-dessus de Blatten avec les éboulements successifs. Et puis maintenant, le risque, on savait que c'était provenait du glacier en lui-même. Et on a vu hier 2-3 décrochements au front du glacier avec des avalanches tout de même impressionnantes. Mais on pensait pas, en tout cas moi personnellement, je pensais pas qu'on pourrait assister à un tel effondrement global du glacier. Et là, on a encore, je pense, aucune information sur l'ampleur de la partie qui s'est détachée. Mais c'est certainement sur plusieurs centaines de mètres que tout glacier est parti. Et c'est vraiment le scénario du pire qui s'est produit au final.
Ça veut dire la partie qui s'est détachée, c'est-à-dire que d'autres pans du glacier pourraient aussi céder et tomber?
Je pense que pour l'instant, on n'en sait rien. Il fait pas très beau. Je pense pas qu'il y ait eu... J'ai regardé les images qui étaient à disposition. J'ai pas vu grand-chose de ce qui reste en haut. Ça, il faudra voir demain quand le beau temps sera de retour. Mais probablement qu'une grande partie de ce qui devait partir est partie.
C'est rarissime, un événement comme celui-là?
Ah, c'est extrêmement rare, moi, de mémoire, et un peu à chaud, hein, parce que ça fait à peine 2 heures que ça s'est produit. Je connais pas de cas similaires. Il y a eu d'autres catastrophes par le passé, même assez récemment, d'autres effondrements glaciaires, d'autres gros écroulements rocheux. Mais des destructions aussi massives en Suisse, je ne sais pas quand il faut remonter, mais ça fait plusieurs dizaines d'années probablement.
On va redonner la parole dans quelques instants au conseiller d'État Stéphane Ganzer qui est avec nous en ligne. J'ai juste envie de vous poser cette question, Christophe Lambiel. Est-ce qu'il y a un lien entre l'effondrement de ce glacier et le dérèglement climatique?
Probablement oui, parce que il faut savoir que ce glacier, en fait, il est très très particulier. Ça fait une dizaine d'années qu'il avance. Et puis, on sait bien que la plupart, la quasi-totalité des glaciers actuellement sont en fort retrait. Et celui-là, c'est un des seuls glaciers des Alpes qui avançait de plusieurs mètres par année. Pourquoi il avançait? Parce qu'il est au-dessous d'une paroi rocheuse d'à peu près 500 mètres de haut qui a débité des blocs très très fréquemment durant ces dernières années à la faveur des étés très très chauds qu'on a connus. Et ces parois au-dessus sont dans du permafrost. Hein, on a les sols gelés en permanence là-haut. Et le permafrost se dégrade. Il s'est réchauffé de presque 1 degré en profondeur sur les 10-15 dernières années. Et ça affecte la stabilité des parois rocheuses. Donc on a eu une très forte augmentation des chutes de blocs, des éboulements sur ce glacier. Ça a amené beaucoup de poids sur le glacier. Et puis le poids, c'est un facteur déterminant dans la vitesse des glaciers. Donc le glacier a avancé au-dessus d'une barre rocheuse, et c'est pour ça qu'il était dans une position très instable. Et puis en plus, ben voilà, il y a eu tous ces éboulements qui se sont produits depuis une semaine, il y a un peu moins d'une semaine, et puis ça a chargé encore plus le glacier. Donc l'augmentation des chutes de blocs est vraisemblablement liée au changement climatique, et c'est ce qui a fait accélérer le glacier.
Restez avec nous, Christophe Lombial. Merci pour ces explications. On reviendra avec vous dans quelques minutes. Toujours avec nous, Stéphane Ganzer, conseiller d'État valaisan en charge de la sécurité. Les amas de glace, d'arbres, de roches coupent la rivière, la Lonza. Il faut craindre aussi des inondations ce soir.
Oui, ce sera d'ailleurs la dernière question à laquelle je vais répondre. Je vous remercie pour votre travail d'information. Moi, je dois aller faire le mien maintenant, qui consiste à coordonner cette opération. Je vous dis simplement une chose, le risque d'inondation, il est réel. La vallée est bouchée. On a l'armée qui est engagée, qui va venir avec de gros moyens, la protection civile, les pompiers. Et puis pour ce faire, bien, il faut que vous me libériez, parce que là, j'ai beaucoup de travail. Je vous remercie beaucoup.
Et alors, en 20 secondes, quel message vous avez ce soir pour les habitants de la région et les habitants valaisans?
Ben, les valaisans et les valaisans sont habitués. On a une certaine résilience, mais la nature est toujours la plus forte à la fin. Et maintenant, on doit y faire face avec tous les moyens à disposition. Je remercie en tout cas les cantons et les forces aussi fédérales qui vont venir nous aider dans cette dure épreuve. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci Stéphane Ganzer, conseiller d'État valaisan en charge de la sécurité, qu'on entendra évidemment encore ces jours prochains sur notre antenne.
Et Carole Mélie-Basili est également avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Députée valaisanne du Centre, habitante de la commune de Sierre, qui avait subi des inondations, c'était l'an passé. Votre réaction, tout d'abord, face à ces images du jour?
Bon, c'est clair qu'on ne peut que être en pensée avec les gens, d'abord, qui ont tout perdu, avec les gens qui doivent s'activer sur place, les autorités, les sapeurs-pompiers. Je pense que, comme l'a dit M. Ganzer, on est au début d'un long chemin, c'est-à-dire qu'il y a encore d'autres risques qui pourraient s'abattre dans cette vallée. Puis c'est clair qu'on n'est que touché par cette situation.
Cette vallée est proche de Sierre. Quelle est l'émotion générale en Valais ce soir?
Ben disons qu'on venait parti en 2024, on a eu une inondation qui nous avait particulièrement choqués sur Sierre. C'était vraiment impressionnant pour nous de voir ces habitations noyées sous des torrents d'eau, de boue, de limon, de branches, etc. De voir la nature qui se réabat, cette fois pas que sur des routes, mais sur des habitations. C'est clair que l'ambiance, elle est triste, mais on sait que c'est comme ça maintenant dans les régions de montagne et puis on doit y faire face.
Stéphane Ganzer parlait de la résilience du Valais, des Valaisans. Vous aviez été à la base de plusieurs textes qui avaient été soumis au Parlement cantonal suite aux catastrophes de juillet 2024, notamment pour soutenir davantage la population visée et débarrasser les déchets. Est-ce que votre canton est suffisamment armé sur le plan financier, sur le plan législatif aussi aujourd'hui?
Ben c'est clair que la gestion de crise, elle est jamais facile. Ça veut dire qu'on doit réagir très rapidement à des paramètres qui changent à tout moment. Ce qu'on peut constater, en tout cas pour ce qu'on avait vécu à Sierre, c'était que la coordination, elle avait un peu pêché. Bon, M. Ganzer était avec nous, donc je peux qu'imaginer qu'aujourd'hui, la coordination, elle devrait être optimale, qu'il faut très rapidement amener de l'aide aux gens qui sont concernés et touchés, ceux qui ont perdu beaucoup de choses, parce qu'ils ont beaucoup de questions qui seront en suspens, mais aussi des choses très simples, comme où vais-je, par exemple, chercher de l'eau si je parle de Sierre? Comment puis-je récupérer ma voiture? Est-ce que je peux réaccéder chez moi maintenant que l'inondation s'est retirée? Comment débarrasser le limon qui avait envahi mon jardin? Puis là, on s'est retrouvé en tout cas de notre côté dans des parcours assez sinueux entre les administrations, les assurances, le fonds suisse. J'espère vraiment que ce sera quelque chose qui s'améliorera, en tout cas dans cette catastrophe-là.
Christophe Lombial, vous êtes toujours avec nous, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, spécialiste des glaciers. C'est toujours difficile, on l'a dit surtout avec Blatten, avec cet événement du jamais vu en Suisse. C'est toujours difficile d'imaginer ce qui va se passer ces prochains jours. Mais à quoi faut-il faire attention précisément? Qu'est-ce qui pourrait encore empirer la situation du côté de Blatten?
Alors on en saura plus dans quelques heures ou demain par rapport à ce qui peut encore tomber. Maintenant, un autre risque qui vient s'ajouter à ça, c'est ce qui a été dit auparavant, c'est la formation d'un lac. inévitablement à l'arrière, vu que la Lonza est barrée, on a un lac qui va grandir très rapidement en période de fonte de neige. Il va faire très chaud ces prochains jours, ces 2-3 prochains jours. Donc il va vite falloir imaginer un système pour évacuer cette eau, pour éviter que le lac grandisse trop, parce que ça c'est un réel risque pour toute la vallée et en contrebas et jusqu'en bas à Gampel, qu'il y ait une vidange brutale d'un éventuel lac. Donc il va falloir travailler rapidement, mais le problème c'est qu'on a une montagne très très dangereuse au-dessus.
Est-ce qu'on peut pour travailler sur place ou la zone, on doit, pour des questions de sécurité, ne pas y accéder?
Ah, je pense que pour l'instant, c'est inimaginable d'y aller. Donc, l'organe de crise en place va devoir évaluer cette situation, mais ça va être un casse-tête parce que pour l'instant, c'est inaccessible. Donc, voilà, j'ai pas de solution, tout est à chaud, mais c'est vrai que ce risque de lac glaciaire, et c'est des risques, c'est pas un lac glaciaire, c'est un lac de barrage glaciaire de glace et de boue et de pierre, mais on peut pas s'il grandit trop, ça devient très très dangereux en contrebas, donc les jours et les semaines à venir vont être compliqués.
Et il faudra mobiliser des moyens, beaucoup de moyens, Carole, Mélie, Basili. Le canton n'y arrivera peut-être pas seul, il faudra l'aide de l'extérieur, notamment l'aide de la Confédération.
Oui, c'est clair que lorsque vous avez des catastrophes d'une telle ampleur, vous avez besoin de l'aide qui vient de toutes parts. J'ai déjà entendu que justement les autres cantons avaient déployé des forces. Il faut bénéficier de la protection civile, de l'armée, en fait, pour aider toutes ces personnes qui sont sinistrées. Les dégâts, ensuite, aujourd'hui c'est la crise, puis dans 2 semaines il en restera encore certains qui sont visibles. Il y aura des gens qui auront encore les pieds dans la boue et puis d'autres qui auront repris le chemin de leur vie. Et ça, il faut vraiment pas oublier ces personnes, parce que le sinistre pour eux, c'est pas que cette semaine ou ces prochains jours, mais ce sera vraiment à long terme et amener toutes les aides possibles pour les sortir et retrouver une vie normale le plus vite possible.
On parle aussi peut-être d'une mobilisation de l'armée. C'est quelque chose qui sera nécessaire selon vous?
Oui, moi je crois que l'armée, on cherche des fois un petit peu des choses à lui faire. Je sais pas comment dire ça, mais dans la population, on a besoin d'avoir une belle image de l'armée. L'armée, elle a des techniciens, ils savent construire des ponts, ils savent faire des barrages. Il y a du génie civil à l'armée. Je pense que si c'est quelque chose qui pouvait être engagé par le canton dans un cas aussi exceptionnel, avec un risque encore de lac qui se formerait, à l'évidence, il faut mobiliser l'armée, mobiliser la protection civile pour venir en aide directement, puis éviter une catastrophe d'une plus grande ampleur.
Merci beaucoup Carole Mélie-Basili, députée du Centre au Grand Conseil Valaisan. Merci aussi à vous Christophe Lombiel, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, spécialiste des glaciers. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Et on va se rendre encore une fois dans la vallée, en contrebas de Blatten. On vous retrouve, Diana Lise Ramsauer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Oui, je me trouve effectivement à Verden. Il pleut énormément ici, on voit de l'eau qui ruisselle un peu partout. La question, c'est donc évidemment la question de l'eau, des cours d'eau, la Lonza avec ses potentielles inondations, on l'a entendu tout à l'heure. Alors, une conférence de presse était prévue à 16h, évidemment avec les événements qui ont pris de court tout le monde, elle a été annulée, tout le monde a couru au plus proche des événements. Un nouveau point d'information débutera à 19h, on espère en savoir plus. On reviendra évidemment dans les prochains rendez-vous d'information pour donner plus de compléments.
Diane Alice Ramsauer en direct de la vallée du Lonchental. Voilà pour cette page spéciale de forum consacrée à cet événement exceptionnel et impensable, le village de Blatten en grande partie détruit suite à l'effondrement du glacier du Birch. À suivre dans ce forum, le bilan contrasté des procédures d'asile accélérées pour les ressortissants du Maghreb et le ministère public vaudois qui relance l'enquête sur la mort de Enzoï. Mais tout de suite, ce constat à Genève, il y a bel et bien eu une fraude électorale à Vernier lors des élections municipales de ce printemps.
Hier, le procureur général genevois a informé le Conseil d'État d'irrégularités dans les bulletins de vote. Information révélée par nos confrères de l'Aimant Bleu, c'est l'élection du Parlement communal du 23 mars qui est concernée. Charlotte Frossard, cela confirme les craintes qui entouraient ce scrutin.
Oui, ces craintes avaient émergé lors de l'analyse détaillée des résultats faite par nos confrères de la Tribune de Genève. Ils avaient révélé l'existence de centaines de bulletins de vote modifiés de façon étrangement similaire et systématique, avec des transferts de voix très atypiques. Ces bulletins émanaient des électeurs du mouvement de Pierre Maudet, Liberté et Justice Sociale. Ils ont favorisé le mouvement tout en propulsant en tête de liste des candidates d'autres partis quasiment inconnus. Elles sont même arrivées devant des cadors de la politique de Vernier, du jamais vu. Plusieurs recours avaient donc été déposés.
Et ils avaient donc raison.
Eh bien oui, dans le cadre de l'enquête menée par le ministère public, un institut vaudois spécialisé a effectué une analyse graphologique. Elle révèle qu'on retrouve effectivement les mêmes écritures sur de nombreux bulletins problématiques. Des irrégularités qui n'avaient pas été constatées par la chancellerie lors du dépouillement. Elles ont été communiquées par le procureur général à la Cour de justice. C'est elle qui devra décider s'il faut annuler l'élection du Parlement communal de Vernier et donc la refaire.
Est-ce qu'on sait, Charlotte, qui est à l'origine de cette fraude?
En tout cas, le chef de campagne de Liberté et Justice Sociale se défend fermement d'un système organisé par le parti. L'enquête suit donc son cours. Elle devra déterminer qui est derrière ces bulletins illicites, si certains individus ont collecté des bulletins de vote, s'ils ont trafiqué seulement le bulletin ou aussi la signature. L'enquête dira peut-être aussi si cette fraude est liée au taux de participation exceptionnellement élevé de certaines communautés étrangères dont nous avions parlé dans cette même émission. Et puis, comme l'évoquait la chancelière cet après-midi devant la presse, il n'est pas exclu que certains citoyens ne sachent pas que c'est illégal de remplir le bulletin d'autres personnes. On rappelle que la jurisprudence le tolère seulement pour des personnes en situation de handicap ou dans un cadre familial très proche.
Et que va-t-il se passer maintenant du côté de Vernier ?
Eh bien, vu que l'élection n'a pas été validée, Vernier risque de devenir ce dimanche 1er juin la première commune suisse à commencer une législature sans autorité communale, sans parlement et sans exécutif, puisque là aussi des recours ont été déposés. Pour éviter cela, le Conseil d'État devrait nommer des administrateurs provisoires afin de gérer les affaires courantes de cette commune de 37 000 habitants, comme payer les salaires des employés de l'administration. On devrait en savoir davantage vendredi.
Vos précisions en direct de Genève. Charlotte Froissart, merci.
Et nous avons joint Michel Righetti, chancelière d'État du canton de Genève. Nous lui avons demandé comment elle réagissait face à cette grave fraude électorale.
Écoutez, nous sommes très préoccupés, consternés si vraiment des comportements illicites ont été commis dans le cadre de ce scrutin. C'est grave, c'est préoccupant. Maintenant, pour nous, la priorité, c'est vraiment que les processus aillent jusqu'au bout, pour qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé, comment, avec quels moyens, et qu'on puisse prendre finalement les mesures qui seront nécessaires pour les prochains scrutins.
Après les premières révélations venant de la presse, la chancellerie avait procédé à des contrôles et conclu que tout paraissait en ordre. Comment avez-vous pu passer à côté d'une telle fraude ?
Alors, les contrôles que nous menons, c'est dans le cadre du dépouillement, enfin, les deux dépouillements, nous menons deux dépouillements. Ça se fait sur l'ensemble, en fait, du scrutin communal. Donc, nous parlons de 45 élections, de 120 000 bulletins. Et c'est clair que dans le traitement de ces bulletins, nous n'avons pas constaté d'irrégularité. Aucune irrégularité ne nous a été rapportée pendant le scrutin. Et c'est sur cette base-là qu'avec la commission électorale centrale, nous avons constaté les résultats le 23 mars.
Mais ça veut dire, madame la chancelière, ça veut dire que sans enquête de la presse, l'affaire n'aurait jamais éclaté. Ça veut dire que les contrôles du système électoral sont défaillants aujourd'hui ?
Alors, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que sur la base des résultats statistiques, il y a eu effectivement un certain nombre de questions. Il y a des procédures qui ont interpellé la justice qui, elle, a d'autres moyens. C'est des experts, c'est des moyens d'investigation tout autres que ce qui peut être fait par la chancellerie. Donc nous avons un système de dépouillement très abouti, mais là nous parlons de comportements illicites qui auraient été commis en amont du dépouillement et sur lesquels nous n'avons pas les outils pour intervenir. Je crois vraiment qu'il faut prendre conscience que là nous sommes dans des expertises, dans des procédures d'une autre envergure et dont il faudra attendre les conclusions pour comprendre exactement ce qui s'est passé.
Donc il n'y aura pas du côté de la chancellerie une remise en question des procédures qui vont être revues, une surveillance accrue ?
Nous sommes toujours dans une remise en question permanente. À chaque scrutin, nous faisons des retours, des incidents, des problématiques qui sont soulevées. Donc, nous avons déjà beaucoup de procédures de contrôle. Maintenant, s'agissant de ce qui a pu être commis, il faut voir quel type de contrôle on peut mettre en place. C'est vrai que ça dépend vraiment des comportements qui ont pu être être fait par les personnes qui seraient mises en cause, mais probablement que c'est pas en lien avec le travail de dépouillement le week-end électoral, mais que c'est des comportements qui ont lieu, qui ont été commis en amont du travail de dépouillement. C'est tout à fait une autre réalité. Maintenant, on doit comprendre ce qui s'est passé pour voir si et comment on pourrait contrôler et avec quels moyens ces étapes en amont du processus de dépouillement en tant que tel.
Est-ce que vous craignez que cette affaire ne jette le discrédit sur le vote par correspondance ?
Bien sûr. Alors, c'est une grande préoccupation. Il faut voir que le vote par correspondance tel qu'il existe en Suisse est un système qui est basé sur la confiance. Nous avons des contrôles qui sont faits au moment du dépouillement, au moment où on reçoit la carte de vote. Mais là, finalement, nous sommes peut-être vraisemblablement dans des comportements qui sont lorsque, en amont, lorsque les personnes ont leur matériel électoral dans les mains. Donc, il faut voir comment on peut contrôler ces étapes, avec quels outils. Mais oui, c'est très préoccupant pour la confiance dans la démocratie. C'est la raison pour laquelle la priorité maintenant, c'est vraiment d'avoir la conclusion des enquêtes et des procédures pour prendre les mesures qui s'imposent pour éviter qu'on puisse avoir d'autres actes de ce type.
La chancelière genevoise Michèle Righetti interviewée cet après-midi. 18h26 dans Forum, la voix du Conseil fédéral sera à l'avenir celle d'une romande. La journaliste valaisanne Nicole Lamont devient porte-parole du gouvernement à partir du 1er août prochain.
Oui, Nicole Lamont est l'actuelle chef de la rubrique suisse du journal Le Temps. Auparavant, elle a été notamment la chef de communication de l'ex-conseiller fédéral Alain Berset. Céline Fontana, c'est donc une personnalité qui connaît aussi bien le monde des médias que celui de la politique que vient de nommer le Conseil fédéral.
Oui, et ce double bagage a incontestablement pesé dans sa nomination à cette fonction hautement stratégique. Rappelons que son prédécesseur, Andrea Archidiacono, est parti en mars dernier après avoir tenu seulement 6 mois à ce poste de vice-chancelier et de porte-parole. Alors, il y a de la continuité et du changement avec cette nomination. Comme les deux autres avant elle, Nicole Lamont est issue de la Suisse latine. Et ce paramètre a compté, nous a-t-on confirmé en conférence de presse, parmi les romans de la Berne fédérale. On redoutait en effet le choix d'un Suisse-Allemand. La direction de la chancellerie fédérale aurait alors été exclusivement alémanique. Avec une romande, eh bien, l'équilibre entre les sensibilités linguistiques sera préservé. Mais il y a aussi du changement, puisque Nicole Lamont est la première femme à occuper la fonction de porte-parole. Pour elle, c'est à la fois important et tout à fait secondaire. Écoutez.
Plus il y aura de postes à haute responsabilité occupés par les femmes, mieux la société ira, pour faire très court. Et puis non, parce que il s'agit de compétences et il s'agit d'un travail à effectuer. Et pour ce travail-là, j'ai pas l'impression que d'être un homme ou une femme, ça va changer grand-chose.
Alors Céline, la figure du porte-parole du Conseil fédéral est devenue célèbre durant la pandémie. Quel sera son cahier des charges ?
Alors comme porte-parole, eh bien, elle assistera aux séances du Conseil fédéral, puis aux conférences de presse. Elle fera donc le lien avec les médias, elle qui fut par le passé aussi la chef de la rubrique politique de la RTS Radio. Mais Nicole Lamont aura surtout la responsabilité de la stratégie de communication du gouvernement, conseiller le collège dans sa communication politique sur des dossiers aussi stratégiques que l'Europe, que les relations commerciales Suisse-États-Unis ou encore le conflit israélo-palestinien, à propos duquel une partie de l'opinion publique juge précisément nos autorités trop silencieuses. La communication en 2025, c'est de la haute voltige, a reconnu Nicole Lamont, mais la future porte-parole l'a admis, c'est aussi le contexte international et sa complexité qui l'ont motivé une nouvelle fois à lâcher le journalisme pour se mettre au service des institutions.
Céline Fontana en direct de Berne, merci. L'actualité de ce mercredi est aussi vaudoise. Le ministère public doit rouvrir une enquête dans l'affaire Enzoï, c'est le tribunal cantonal qui le lui ordonne.
Un rebondissement révélé aujourd'hui par 24 heures dans cette affaire qui secoue le canton de Vaud. Depuis qu'un homme muni d'un couteau est tombé sous les balles d'un policier, c'était il y a 4 ans sur un quai de la gare de Morges. Pour en parler, nous accueillons Ludovic Thierry Lee, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes avocat, vous défendez la famille de Enzoï. Aujourd'hui, le tribunal cantonal vous donne donc raison sur pratiquement tous les points. On imagine que vous avez déjà annoncé la nouvelle à la famille. C'est le soulagement pour eux et pour vous, j'imagine.
C'est un grand soulagement pour la famille, c'est une grande satisfaction. Parce qu'on a affaire à une famille qui avait un petit peu perdu confiance en la justice, qui avait formulé énormément de requêtes dans le cadre de cette procédure, qui toutes avaient été presque systématiquement rejetées par le ministère public. Aujourd'hui, le tribunal cantonal leur dit « Vous aviez raison sur toutes les requêtes que vous avez présentées ».
Dans son arrêt, le tribunal cantonal, plus précisément, reproche au procureur de n'avoir pas assez enquêté, de s'être basé sur le seul rapport de police cantonal pour évaluer si les agents avaient agi correctement ou non. Comment est-ce que vous expliquez qu'on n'ait pas poussé plus loin ?
Je pense que c'est des pratiques dans le canton de Vaud. Lorsqu'il y a des affaires de cet ordre-là, on va demander à la police d'émettre un rapport. Or, la police qui va émettre le rapport est souvent une police qui travaille avec les policiers qui sont sous investigation, donc ça pose des problèmes d'indépendance. Et c'est pour cette raison-là que dès le début de cette affaire, nous avions demandé une expertise indépendante sur les actes métiers de ces policiers qui étaient intervenus, qui avaient été écartés d'un revers de main. On passait un petit peu pour des farfelus, presque, aux yeux du ministère public. Puis aujourd'hui, le TC, nous dit, cette expertise, elle est indispensable, parce que dans ces affaires de violence policière, on peut pas confier à un collègue des policiers sous enquête la charge d'établir un rapport. Il faut un expert indépendant, un expert impartial, qui travaille selon les règles du code de procédure pénale et qui offre toutes les garanties de droit et de procédure à toutes les parties, y compris les parties plaignantes.
Mais un tel expert, on le trouve où, dans un autre canton?
Un tel expert, assurément, on le trouvera dans un autre canton, oui j'imagine. Oui.
Alors, l'affaire repart de zéro. Le procès aura lieu au tribunal d'arrondissement de la Côte. L'agent de police qui a tiré plaide la légitime défense. Vous allez continuer à plaider que l'usage de l'arme était disproportionné dans cette situation?
Alors, les arguments en droit qu'on soutiendra devant le tribunal, on les garde pour le tribunal. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les nombreuses choses que le tribunal cantonal a dites dans cet arrêt, le tribunal cantonal dit qu'il faut apprécier la proportionnalité de la réponse du policier. L'expertise va principalement porter sur ces questions-là. Et puis, le TC nous dit que, en définitive, c'est au tribunal d'apprécier si, oui ou non, le policier en question a agi de manière proportionnée par rapport aux circonstances. Et le TC nous dit aussi une autre chose qui est importante et qui a peut-être été un peu passée sous silence dans les médias aujourd'hui, qui est que la famille de Enzoï demandait aussi l'ouverture d'une instruction pénale pour omission de prêter secours. Le ministère public avait refusé d'ouvrir une telle instruction pénale, quand bien même nous avions produit des vidéos qui étaient indéniables sur le fait que Enzoï, au sol, blessé, respirait encore, était encore vivant, et pendant près de 4 minutes, personne ne s'est soucié de lui conférer les premiers soins. Eh bien, le tribunal cantonal dit « il faut ouvrir une enquête pour omission de prêter secours ». CQFD, c'est ce qu'on demande depuis le début de l'affaire.
Mais rien ne dit que cet autre tribunal vous donnera raison.
Non, rien. Mais au moins, nous aurons une enquête effective. Et ce n'est que ça que nous demandons. Et nous savons que ça sera difficile pour la suite. Parce que, évidemment, nous sommes face à un ministère public qui, jusqu'à présent, a refusé toutes nos requêtes. Alors, le tribunal cantonal lui tape un petit peu sur les doigts, lui donne des instructions. Tu devras faire cette enquête-là, tu devras entendre tel expert. Mais il y a de fortes chances, et c'est pour cela que nous serons vigilants dans la suite de cette procédure, il y a de fortes chances que, finalement, ça se dégonfle au moment du procès. Et puis qu'on se retrouve face à un procureur qui dit, finalement, j'abandonne les charges, comme on l'a souvent vu dans ce genre d'affaires.
La réouverture de cette enquête s'inscrit dans un contexte très particulier. Ces dernières années, plusieurs hommes noirs sont morts dans le canton de Vaud, après avoir été en contact avec la police. Dernier exemple en date, dimanche dernier, un dealer présumé est décédé peu de temps après son arrestation. Mais est-ce que vraiment on peut faire des liens entre ces cas?
En tant que professionnel du droit, je vous dirais que chaque cas est différent et puis qu'on ne peut pas raisonner par analogie d'un cas à l'autre. Après, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Vous les réduisez vraiment à leur plus simple substance, à savoir des hommes noirs et la police de l'autre côté. Je ne peux pas en dire davantage, je ne suis pas habilité à me prononcer sur ces questions-là.
Ça, ce sont les politiques qui le sont, pas les avocats de la défense.
Et les sociologues aussi.
Ludovic Tirelli, avocat de la famille de Enzoï, vous réagissez à la décision du tribunal cantonal, le TC, comme vous disiez, de réouvrir l'enquête. Bonne soirée à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation, bonne soirée. Au revoir messieurs.
Merci.
C'était il y a une année environ, fin avril 2024, la procédure d'asile accélérée était étendue à l'ensemble de la Suisse.
Cette procédure en 24 heures cible les ressortissants en provenance des pays du Maghreb dont les chances d'obtenir l'asile sont extrêmement faibles. Mais cette procédure n'a en réalité pas fait diminuer le flux de ces demandeurs en Suisse. Romain Bardet, c'est ce que montre votre enquête réalisée avec Gabriel Devec, et ceci alors que le comportement de plusieurs de ces ressortissants continue de poser problème.
Ah oui, lundi de la semaine dernière, en début de soirée, une altercation a lieu entre deux jeunes Algériens dans le tram qui relie Neuchâtel à Boudry. Le véhicule est stoppé. Les passagers assistent à l'arrivée de la police. L'un des deux individus est en possession d'un couteau. Tous deux sont domiciliés au centre fédéral d'asile de Boudry. Or, c'est justement en visitant le printemps dernier ce centre que le conseiller fédéral Béatian s'avait confirmé l'entrée en vigueur de cette procédure accélérée. Les tensions étaient alors très vives avec des habitants qui pointaient du doigt le comportement de ces requérants qui, dans les faits, n'obtiennent quasiment jamais l'asile.
Alors un an plus tard, que montrent les chiffres ?
Eh bien que depuis l'introduction de cette procédure accélérée au niveau national, les demandes des ressortissants d'Afrique du Nord n'ont pratiquement pas diminué. Il y en a eu un peu plus de 4100 dans le pays depuis fin avril 2024. C'est à peine 30 de moins que les 12 mois précédents.
Et que répond le secrétariat d'État aux migrations ?
Il souligne que si les chiffres n'ont pas diminué, c'est que cette procédure accélérée permet de recenser davantage de demandes, alors qu'avant, bon nombre de personnes finissaient par abandonner avant même d'être enregistrées. Le SEM met surtout l'accent sur le fait que cette procédure en 24 heures a permis de réduire le nombre de ressortissants nord-africains séjournant dans les centres d'asile, nombre d'entre eux y commettant des infractions. Leur présence dans les CFA a diminué de près de 40% en Suisse romande.
Alors ça, c'est pour les centres fédéraux d'asile, mais est-ce que cette procédure a eu un effet sur les chiffres de la délinquance ?
Eh bien, en tout cas, pas dans le canton de Neuchâtel, qui abrite ce CFA de Boudry. Les ressortissants du Maghreb restent surreprésentés dans les statistiques de la criminalité. L'an dernier, trois quarts des auteurs d'infractions au code pénal issus de l'asile provenaient d'Afrique du Nord, Algérie en tête. Pour le commandant de la police neuchâteloise, Sami Afsi, cette procédure en 24 heures est un outil, mais ce n'est pas la panacée.
Pas empêcher une délinquance qui vient de la migration, qui passe par l'Espagne, la France, d'arriver dans notre canton. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que les auteurs actifs soient identifiés rapidement et puis qu'ils n'aient pas la possibilité de s'implanter sur place, de s'organiser également. Et là, sur ces aspects-là, on peut dire que c'est plutôt un succès.
Et le mois dernier, Confédération, Canton et Communes ont annoncé le lancement d'un projet pilote. Objectif, que les récidivistes soient systématiquement mis en détention et que les renvois soient exécutés.
Votre enquête, Romain Bardet, réalisée avec Gabriel Devec. Merci.
Et Lionel Walter est également avec nous, porte-parole de LOSAR, l'organisation suisse d'aide aux réfugiés. Bonsoir.
Bonsoir.
L'instauration de cette procédure accélérée n'a pas permis de faire diminuer les demandes d'asile en provenance du Maghreb. C'est ce que nous révèle l'enquête de Romain Bardet. Est-ce que cela vous surprend ?
Pas vraiment. C'est ce qu'on avait déjà constaté l'automne dernier et nous demandions de mettre fin à cette procédure. C'est toujours ce que nous faisons aujourd'hui. Il faut savoir que une part des personnes ressortissantes des pays du Maghreb qui viennent ensuite Suisse ne souhaitent pas demander une protection. Mais les possibilités de séjourner légalement en Suisse étant fortement restreintes, eh ben souvent faute de mieux, elle dépose une demande d'asile, ce qui peut expliquer le fait, notamment que le nombre de demandes n'a lui pas diminué. Mais c'est pas le type de procédure d'asile qui a vraiment un effet sur le comportement ou sur la décision de ces personnes d'entrer dans un processus d'asile ou non.
Bon, le secrétariat d'État aux migrations répond tout de même qu'il y a eu un impact, certes limité, certes peut-être pas complètement conforme à ce qu'on attendait, mais impact quand même.
Alors, il y a moins de personnes dans les centres. Le secrétaire d'État aux migrations n'explique quand même pas où ces personnes sont passées. Si d'un côté, le nombre de demandes ne diminue pas, mais que le nombre de personnes dans les centres, lui, diminue, c'est que ces personnes sont bien quelque part. Alors, est-ce qu'elles ont quitté le territoire, qu'elles sont revenues, est-ce qu'elles sont passées dans la clandestinité, ça c'est pas à moi de l'expliquer, mais c'est des hypothèses qui existent aussi.
Les chiffres évoqués tout à l'heure pointent une surreprésentation des délinquants d'origine nord-africaine. Ça, c'est une réalité que vous avez constatée vous-même aussi ?
Alors ça, c'est quelque chose que nous connaissons. C'est effectivement quelque chose que nous nions pas. Il y a effectivement un problème avec certaines personnes originaires des pays du Maghreb qui, comme je disais, pour une part, ne souhaitent pas demander de protection et dont certains commettent des actes de délinquance. Par contre, c'est pas la procédure 24 heures qui est la réponse adéquate, parce que en voulant répondre à une problématique qui fait du fait d'un groupe relativement restreint, elle stigmatise tout un groupe de personnes sur la base de leur origine, et ça a des conséquences potentiellement graves pour les personnes qui elles auraient besoin de protection et qui passent par cette procédure accélérée qui permet pas d'exactement clarifier les motifs de la fuite et le besoin de protection.
Vous n'êtes pas sociologue, Lionel Walter, mais vous reconnaissez qu'il y a un problème avec cette minorité originaire du Maghreb. Or, pour régler un problème, il faut le comprendre. Comment explique-t-on cette spécificité ?
comme vous le dites, je ne suis pas sociologue, je ne saurais pas expliquer cette spécificité. Ce qu'on sait de la part de certains experts, c'est que les comportements criminels, ils ont plusieurs causes, mais qui ne peuvent pas s'expliquer sur l'origine. Ils sont à chercher dans le statut social, dans le manque de perspective des personnes qui les commettent. Par contre, ce que nous disons du côté de Lozard, c'est que les problématiques liées à la criminalité ne sont pas à régler dans le domaine de l'asile. Le domaine de l'asile, il est là pour offrir une protection à celles et ceux qui en ont besoin. C'est des questions qui doivent être réglées par les organes et les autorités de poursuite pénale. Et là, il doit y avoir une collaboration meilleure qui se fasse notamment entre les cantons.
Votre message, Lionel Walter, porte-parole de l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés. Bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée.
Forum, Renaud Malik, Valentin Emery.
Actualité internationale à présent. Dans la bande de Gaza, au moins 47 Palestiniens ont été blessés lors d'une distribution d'aide qui a tourné au chaos.
Et le bilan est lourd au lendemain de la mise en activité du centre géré par la Fondation humanitaire de Gaza, Miruna Coca-Cosma. Au-delà du chaos, c'est tout un modèle humanitaire qui divise et qui suscite une guerre des mots entre l'ONU et Israël.
Oui, chaotique, indigne et dangereux. Philippe Lazzarini, patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, n'y va pas par quatre chemins pour dénoncer le nouveau système de distribution d'aide mis en place par Israël et les États-Unis. Pour lui, cette initiative de la Fondation humanitaire de Gaza, une société privée pour contourner les agences de l'ONU, est une perte de ressources et une distraction par rapport aux atrocités. Mais pour Israël, l'objectif affiché est d'empêcher le Hamas de détourner l'aide. Sur une vidéo relayée par plusieurs médias, on voit une foule compacte dont des femmes et des enfants amassés le long des grillages. On entend des coups de feu d'avertissement de l'armée israélienne, bousculade générale. Certains semblent baisser la tête comme pour se protéger d'éventuels tirs. L'armée israélienne qui assure avoir tiré en l'air et en aucun cas vers les gens. Le premier ministre Netanyahu a reconnu une perte de contrôle momentanée tout en affirmant que l'opération était un succès. La confrontation est directe. D'un côté, Israël accuse l'ONU de refuser de faire son travail. De l'autre, l'organisation internationale dénonce les obstacles ahurissants imposés par l'État hébreu.
Ces scènes de chaos, Miruna, c'est tout un symbole des impasses qui paralysent aujourd'hui l'acheminement de l'aide dans ce territoire affamé.
Oui, c'est une impasse qui laisse les civils gazaouis pris en étau entre les exigences sécuritaires d'Israël et les accusations mutuelles pendant que l'urgence alimentaire s'aggrave chaque jour. La Fondation humanitaire pour Gaza a annoncé aujourd'hui l'interruption temporaire de ses activités. De son côté, le Conseil fédéral appelle aujourd'hui à un accès humanitaire immédiat et sans entrave dans la bande de Gaza. Et c'est dans ce contexte, sous tension sur le plan humanitaire, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu annonce une victoire militaire. Il confirme devant la Knesset l'élimination du chef présumé du Hamas, Mohamed Sinwar, lors d'une attaque qui s'est déroulée il y a deux semaines.
Votre récit, Miruna Coca-Cosma, merci.
Et alors que la situation à Gaza est toujours plus dramatique, la pression sur le Conseil fédéral ne cesse d'augmenter. Il est sommé d'agir immédiatement pour protéger le droit international. C'est ce que réclament une centaine d'organisations et personnalités, dont deux anciennes conseillères fédérales. Elles ont adressé une lettre ouverte au gouvernement aujourd'hui.
Mathieu Andersen, on va décrypter avec vous trois revendications principales des signataires, à commencer par l'engagement actif pour un cessez-le-feu. Que fait la Suisse actuellement ?
Alors, comme vient de le dire Miruna, le Conseil fédéral vient de publier à l'instant un communiqué de presse. Il appelle à un cessez-le-feu immédiat. Il se dit, je cite, profondément bouleversé par les souffrances humaines insupportables et demande un accès humanitaire sans restriction. Une déclaration écrite mais plus explicite que la courte prise de parole vendredi dernier du conseiller fédéral Ignacio Cassis après les nombreuses critiques pour son mutisme. Le gouvernement s'en tient donc à un des grands principes du droit international, mais ne condamne pas explicitement les actions israéliennes.
Par contre, rien n'empêcherait la Suisse d'être plus active en coulisses.
Oui, pour mettre davantage de pression sur les différentes parties. Le Conseil fédéral rappelle ce soir qu'il participe aux préparatifs d'une conférence de l'ONU prévue en juin à New York. Ces derniers jours, l'ambassadeur suisse en Israël avait écrit plusieurs fois à Ignacio Cassis pour qu'il mette la pression sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Mais la Suisse n'a pas de super pouvoir, m'a glissé aujourd'hui un observateur. Plusieurs spécialistes estiment que la Confédération a perdu de son influence pour tenter de faire dialoguer les deux parties au Proche-Orient.
Est-ce que la Suisse a plus de marge de manœuvre concernant l'aide humanitaire ?
Alors disons qu'historiquement, elle joue un rôle à part entière en tant que pays dépositaire des conventions de Genève. Elle a par exemple été mandatée par l'ONU pour organiser cette année une conférence sur le droit humanitaire à Gaza, mais elle n'a pas réussi à convaincre les différentes parties de s'asseoir à la même table.
Il y a aussi la question des exportations de matériel de guerre.
Oui, la lettre ouverte publiée aujourd'hui demande de suspendre l'envoi vers Israël de matériel à double usage, civil et militaire, comme certains lasers par exemple. Rappelons que la Suisse travaille étroitement avec l'un des principaux fournisseurs de l'armée israélienne, l'entreprise Elbit, qui a une filiale à Berne. Une situation potentiellement problématique, car le droit international oblige les États à évaluer les risques liés au transfert de technologie vers un pays en guerre. Pour l'heure, la Suisse ne prévoit pas de suspendre ses exportations, tout comme elle ne prévoit pas de sanctions économiques envers l'État hébreu. Généralement, la Confédération reprend les sanctions imposées par d'autres pays, comme celle de l'Union européenne contre la Russie. L'UE réfléchit désormais à de possibles sanctions contre Israël. Une telle mesure forcerait la Suisse à se positionner. Le Parlement a par exemple refusé l'an dernier de sanctionner les violences de colons israéliens en Cisjordanie.
Mathieu Andersen en direct de Berne, merci.
20 ans de réclusion criminelle, dont 2/3 de peine de sûreté, 15 ans de suivi socio-judiciaire, c'est la peine prononcée aujourd'hui en France contre Joël Le Squarnec. L'ancien chirurgien est reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 patients, en très grande majorité des mineurs. Benjamin Louis, on vous retrouve à Paris, c'est l'épilogue d'un procès hors norme.
Oui, c'est la plus grande affaire de pédocriminalité jamais jugée en France. 3 mois d'audience à Vannes, en Bretagne. 299 victimes reconnues, âgées en moyenne de 11 ans, agressées entre 1989 et 2014. Joël Le Squarnec, 74 ans, a reconnu tous les faits, y compris sa responsabilité morale dans 2 morts, un suicide et une overdose. Il est donc, vous l'avez dit, condamné à 20 ans de prison, la peine maximale avec 13 ans incompressible. Sa peine inclut aussi 15 ans de suivi socio-judiciaire, une injonction de soins et une interdiction définitive d'exercer en contact avec des mineurs. Mais concrètement, cette peine n'ajoute que 5 années à celle de 15 ans déjà prononcée en 2020 en raison du mécanisme de confusion des peines. Il est incarcéré depuis 2017.
Et cela fait énormément réagir, on l'imagine, du côté des victimes.
Oui, avec beaucoup de colère, le ministère public avait requis une rétention de sûreté, une mesure rare qui permet de maintenir un condamné enfermé après sa peine s'il est jugé encore dangereux. Les experts avaient estimé la récidive probable, voire très probable, mais la cour a refusé en évoquant l'âge de l'accusé et sa volonté affichée de réparation. Une décision qui choque les victimes. Solène Poitvin-Favre est présidente de l'association Face à l'inceste et coprésidente de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle était dans la salle, écoutez.
Effectivement, on aurait vraiment pu s'attendre à beaucoup plus, étant donné l'ampleur des crimes. Finalement, on n'a pas eu une mesure exceptionnelle qui aurait été la rétention de sûreté, mais plutôt quelque chose d'assez classique et attendu, presque comme un minimum.
Et Benjamin, ce procès interroge aussi les institutions.
Oui, le docteur Joël Le Squarnec avait été condamné dès 2005 pour détention d'images pédopornographiques sans être suspendu. L'ordre des médecins alerté en 2006 n'a rien engagé, les hôpitaux non plus. C'est une faillite institutionnelle et malgré l'ampleur du procès, eh bien Solène Poitvin-Favre doute que cela fasse bouger les lignes.
Et on n'a pas assez vu, en fait, je crois, les failles dans le système. Elles n'ont pas été suffisamment analysées. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir prendre des mesures pour les éviter. Il y a beaucoup de manquements dans ce procès. On est passé à côté de toutes ces failles et de ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. On est passé à côté de l'inceste. L'inceste qui est au cœur de ce procès, qui a vraiment été murmuré seulement, mais pas vraiment pris en compte.
Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a promis une rencontre avec les victimes le 11 juin prochain. Il dit vouloir agir pour que plus jamais des enfants ne soient exposés à un tel prédateur.
Benjamin Louis en direct de Paris.
Et Paris, on y reste pour un tout autre sujet. On va parler de tennis. On va faire un point sur les 2 Suissesses engagées aujourd'hui à Roland-Garros. Victoria Golubic s'est fait nettement sortir ce matin. Quant à Jill Teichmann, elle a la lourdissime tâche d'affronter la numéro 1 mondiale, Arina Zabalenka. Bernardin Lehmann, on vous rejoint sur place. La rencontre a-t-elle commencé?
Non, elle va commencer d'ici 10, maximum 15 minutes. Le match précédent vient de se terminer. Le Bosniaque du Mur a éliminé le vainqueur du tournoi de Bâle, Mpeci Perica. Voilà, donc les deux joueuses vont faire leur apparition sur le terrain. On va pas se le cacher, il y a une grandissime favorite. C'est évidemment Arina Sabalenka, la numéro 1 mondiale, vainqueur en Grand Chelem, mais qui n'a jamais gagné à Paris. Donc autant dire que la Biélorusse est particulièrement motivée. Et puis voilà, le but pour Jill Teichmann aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de regrets, c'est de tout donner. et puis voilà, de sauver un peu l'honneur suisse qui ce matin, c'est vrai, était un peu terni par la lourde défaite de Viktoria Golubic dans son match face à l'américaine Anisimova, mais là non plus c'était pas une surprise.
Un mot rapidement Bernardin, sur les autres matchs du jour, facile pour les favoris?
Oui, facile pour les favoris, facile pour Yasmine Paolini qui est impressionnante, la finaliste de l'an dernier, facile aussi pour Carlos Alcaraz, même si l'Espagnol tenant du titre a perdu un set, et puis facile également pour Iga Świątek, quadruple vainqueur ici à Roland-Garros.
Bernardin Lehmann en direct de la Porte d'Auteuil, Roland-Garros, merci. Et on va s'intéresser à présent à une enquête sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans.
Ils sont la première génération à avoir grandi avec un smartphone à la main. Et pour cette raison, leur expérience de l'amour et de la sexualité n'a pas grand-chose à voir avec celle de leurs aînés. Bonsoir Justine Briquet-Moreno.
Bonsoir.
Journaliste, vous publiez aujourd'hui même chez Flammarion le livre « Les cobayes », fruit d'une enquête de 2 ans. Alors cette génération Z, comme on dit, fait l'objet de beaucoup de clichés, Justine Briquet-Moreno. On l'a dit, complètement décomplexée, hypersexualisée. C'est une vision beaucoup trop simpliste.
Oui, c'était sûrement aussi le point de départ en fait de cette enquête. C'était l'envie de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, notamment d'un chiffre assez évocateur sur la baisse des rapports sexuels chez les jeunes, et notamment dans cette génération Z. Et moi-même, j'appartiens à cette génération, donc j'avais un petit peu envie de l'écouter et de lui donner la parole dans le temps long. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce livre pendant 2 ans.
Ouais, sachant que les chiffres parfois sont un peu trompeurs, notamment les chiffres qui concernent la première expérience sexuelle. Parfois, on a pu lire que c'était plus tard qu'avant. Parfois, on a pu dire que c'était plus tôt. En fait, il faut aller simplement au-delà des chiffres et écouter simplement ces jeunes.
Oui, après c'est vrai que c'est plus tard, les chiffres le prouvent, les derniers chiffres officiels qui sont sortis montrent qu'en moyenne c'est 17,7 ans à peu près le premier rapport sexuel aujourd'hui, mais effectivement moi ce que j'avais envie c'était de simplement raconter aussi un changement de regard sur la sexualité, parce que c'est ça aussi qui explique la chute des rapports sexuels. Moi j'ai rencontré énormément de jeunes couples qui me disaient que c'était tout simplement impossible pour eux de donner finalement une fréquence de leur rapport sexuel au quotidien, tout simplement parce qu'ils ne s'obligent plus, ils s'écoutent profondément en fait, ces jeunes.
Alors c'est une génération qui a grandi avec les applications de rencontres, avec la pornographie gratuite et quasi omniprésente. En quoi tout cela a modifié leur perception de l'amour et de la sexualité?
Oui, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai intitulé le livre « Les cobayes », parce que pour moi ils sont les premiers en fait à avoir grandi avec un téléphone dans les mains. Et ce que je raconte dans le livre aussi, c'est ce que ça change concrètement dans leur manière de se rencontrer, de s'aimer, de se désirer. En fait, le numérique, il change même la rencontre amoureuse dès le départ finalement. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se séduisent avec les mots derrière un écran quand la rencontre elle est virtuelle, et puis ensuite seulement les corps peuvent se rapprocher. Donc c'est aussi ça que ça raconte, l'invasion du numérique dans nos vies. C'est un bouleversement total en fait de la rencontre amoureuse.
On dit parfois que le mouvement MeToo a complètement bouleversé la manière de se rencontrer, la manière de se parler, la manière de se séduire, qu'il y a d'un côté des féministes, de l'autre des masculinistes. Est-ce que ça pourrait expliquer le fait que la fréquence des rapports sexuels chez ces jeunes a tendance à baisser ?
Oui, complètement. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait un vrai malaise dans les couples hétéros. Les jeunes couples hétéros, ils sont vraiment marqués par une forme d'incompréhension. Il y a un manque de mots, de communication sur l'oreiller entre eux. Et donc, ça donne lieu des fois à beaucoup d'incompréhension. J'ai remarqué beaucoup de colère, un petit peu, pas forcément toujours exprimée clairement vis-à-vis des garçons, mais les filles sont très en colère en fait envers les garçons. Il y a quelque chose qui monte, parce qu'effectivement, cette notion de consentement, elle les traverse, elle les a bouleversés. Elle les questionne aujourd'hui, mais en même temps, j'ai pas envie de caricaturer cette jeunesse. Je pense aussi qu'elle se pose beaucoup de questions aussi là-dessus, et je pourrais pas caricaturer en disant que tous les garçons sont masculinistes, même si effectivement il y a des rapports qui le prouvent, qu'effectivement il y a un gender gap, comme on dit, entre garçons et filles,
un fossé
et que effectivement
entre les
filles sont plus, oui. Les filles sont beaucoup plus féministes que les garçons, et c'est vrai que les garçons vont des fois apporter leur soutien, mais plus du bout des lèvres, c'est plus compliqué de l'assumer pleinement.
Alors prenons la vision du couple, hein, de cette génération, de ces jeunes que vous avez rencontrés. Est-ce que la monogamie exclusive reste le modèle dominant?
Oui, complètement. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que cette génération Z qui a inventé des nouveaux couples, qui a inventé toutes sortes de terminologies pour parler des relations amoureuses, donc on parle de sex friend, situationship, relations libres, etc. Eh bien, en fait, face à cet univers amoureux qui est en constante évolution, où finalement les relations sont très éphémères, en fait, ils s'accrochent à quelque chose de très concret. Et donc, oui, il y a plus de 80% de la génération Z qui aspire à un couple monogame, effectivement.
Vous évoquez la notion de consentement. Vous avez suivi, Justine Briquet-Moreno, ce procès hors norme que nous racontait à l'instant notre correspondant à Paris, Benjamin Louis, le procès Le Squarneck, un agresseur de masse, si on ose dire, hein, qui a abusé de centaines de mineurs. Est-ce que vous diriez que cette jeune génération, les 18-28 ans, est mieux armée, en fait, face à toute forme d'agression?
Oui, parce qu'ils savent verbaliser déjà les violences sexuelles. Moi, c'est ça qui m'a frappée, c'est que c'est une génération qui cherche son information sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et donc, par exemple, pour parler des jeunes femmes notamment, elles se sont énormément informées sur des comptes sexos, féministes, etc., qui ont vraiment débunké un peu la question des violences sexuelles. Et donc, elles sont complètement incapables de faire la part des choses et de différencier un viol, une agression sexuelle, même de connaître des fois la définition pénale de chaque violence. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez marquant et je ne suis pas certaine que leur mère et leur grand-mère avaient cette conscientisation des violences sexuelles dès 20 ans, quoi. Effectivement. C'est assez frappant.
Un rapport de l'OMS Europe publié en 2024 alertait sur le fait qu'un tiers des jeunes interrogés n'utilisent ni le préservatif ni la pilule lors de leur premier rapport sexuel. Le rapport à la contraception est devenu plus complexe, plus compliqué.
Oui, moi je l'ai appelé la génération sans capote, parce que manifestement, dans le discours, le traumatisme des années SIDA, il est complètement disparu. C'est pas quelque chose qui existe dans leur discours, et même quand ils ont conscience en fait des risques qu'ils sont en train de prendre, eh bien, ils préfèrent finalement vivre le moment présent pour les citer. Ils n'ont pas envie de s'embarrasser de cette contrainte, et ils se posent plus en fait ce genre de questions. Et manifestement, alors qu'ils sont saturés d'informations via les réseaux sociaux, via Internet en général, et bien des fois, ils n'ont même pas les bonnes informations. Et donc, il y en a qui peuvent contracter des IST parce qu'ils ne connaissent pas forcément les moyens de les contracter, etc.
C'est une génération qui a aussi grandi à l'heure de la pornographie gratuite, illimitée sur le net. En quoi est-ce que ça a modifié sa perception? Est-ce que ça a pu contribuer à normaliser certaines formes d'abus?
Oui, effectivement. Je commence avec la pornographie parce que pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée sur la sexualité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est souvent le trait d'union en fait entre leurs différents profils, pourtant très variés. J'ai choisi vraiment 50 jeunes de différentes orientations sociales, origines ethniques, etc. Donc vraiment, ils avaient des profils très différents, mais à chaque fois, la pornographie, ça revenait. Et ça revenait dès les 5 premières minutes d'entretien. Et c'était vraiment un marqueur pour eux. Et effectivement, ce que j'ai constaté, c'est que ça imprégnait aussi leur manière d'entrer dans la sexualité. Ils se posaient des questions, ils étaient dans une forme de reproduction du script pornographique qui était assez frappante. Et des fois, ils en prenaient conscience pendant les entretiens, ce qui pouvait être assez fort.
Voilà, une enquête de 2 ans que vous avez menée, Justine Briquet-Moreno, et dont vous avez fait ce livre qui paraît aujourd'hui même chez Flammarion. Ça s'appelle donc Les Cobayes. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir dans Forum.
Merci.
Excellente soirée à vous.
Merci, à vous aussi.
Et on va finir en revenant sur l'information évidemment principale du jour. Ça s'est passé du côté de Blatone avec le glacier qui a cédé sur le coup des 15h30 cet après-midi. Dianalys Ramsauer, vous êtes à proximité de ce village du Haut-Valais. Quelle est la situation sur place maintenant à 18h57?
Tout le monde ici est sous le choc, hein, abasourdi. Cette rupture du glacier en un bloc, ou pratiquement en un bloc, c'est effectivement l'un des scénarios. Mais quand on parle de scénario du pire, on a toujours tendance à penser qu'il n'arrivera pas. Là, c'est bien celui-ci qui s'est produit. Ça faisait 10 jours que la montagne bougeait, que des pans entiers tombaient sur ce glacier, alourdis par des millions de mètres cubes de gravats. Il menaçait de rompre. Cette fois, c'est donc arrivé. Et d'une puissance inattendue, les gravats sont même remontés jusqu'au versant opposé, débordant ensuite sur les côtés de la vallée. Alors sur les images prises par drone, ce que l'on voit, c'est un champ de désolation, des maisons recouvertes de gravats. J'étais déjà présente lundi passé, ici dans le Lötschental, quand les habitants venaient d'être évacués. Ils avaient pris le strict minimum, quelques habits, quelques affaires, et ils étaient partis d'urgence au micro, ils nous disaient qu'ils craignaient ne pas retrouver leur maison. Pour la plupart d'entre eux, c'est désormais une réalité. Sur le plan humain, ces personnes, c'est donc une priorité, les reloger, leur donner un soutien moral, psychologique. Et puis, inquiétant également, une personne pour l'instant est déclarée disparue. Enfin, pour ce qui concerne la nature, ce qui inquiète maintenant, c'est cette rivière, la Lonza, qui elle aussi est bloquée par les gravats un peu plus haut. Faut bien qu'elle coule le long de la vallée, autrement on risque des inondations. Ce sera un enjeu majeur ces prochains jours. Toutes ces questions restent maintenant ouvertes. Peut-être que les autorités répondront à quelques-unes d'entre elles tout à l'heure. Une conférence de presse débute dans quelques secondes.
Merci Dianaïs Ramsauer. Une émission spéciale a lieu en ce moment sur RT. TS1 le 19h30 et notre matinale évidemment reviendront sur ces événements. Place à la météo. Avec un temps bien ensoleillé demain malgré quelques nuages élevés en pleine, minimum 12 degrés, maximum 23.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Infotrafic RTS.
Des bouchons, des ralentissements restent signalés, notamment sur les autoroutes A12 et A9 en direction du Valais et sur l'A1 Genève-Yverdon entre Villars-Sainte-Croix et Charvernay en direction d'Yverdon.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Forum. À la technique ce soir, il y avait David Chapuis, Ludovic Labra, Yanis Bordas, Lionel Loris et Brian Lani. Excellente soirée à tous et à toutes.
Bonne soirée.